dịu từng nhịp bước thật rộn ràng nhẹ nhàng. Nếu có em ở trong vòng tay đêm nay, cho thời gian lắng quên cơn tàn tìm về sáng, cho tàn môi ước thương men nồng còn đợi chờ trong tiếng đêm thu dài lâu.
Pledge resistance.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième émission de cette saison à l'émission Touche pas à mes droits de la clinique juridique de Saint-Michel. Ici, Maître Fernando Belton, je suis très content pour la première fois d'être derrière le micro à l'animation. Mais je ne suis pas seul, heureusement, vous savez, j'ai avec moi la charmante Iba El-Haïdi qui est là pour co-animer cette émission avec moi. Alors, bonjour Iba, comment ça va?
Bonjour Fernando, ça va bien et toi?
Super, écoute, ça a été difficile de pouvoir te trouver un rendez-vous avec toi pour enregistrer notre live qu'on devait, donc finalement, on a la chance de le faire.
Écoute, je ne dis pas non, parce que surtout pour la cause, hein, on ne dit pas non pour parler avec toi, surtout pour le profilage racial et en l'occasion justement de cette belle émission qu'on anime et qu'on a la chance de faire. Merci à nos partenaires. Comme tu sais, Fernando, la ville de Montréal, mais également en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Super. Alors aujourd'hui, c'est une belle émission parce qu'on va recevoir plusieurs candidats à la mairie qui vont être là pour nous parler un peu de leur plateforme et puis on va leur poser quelques questions qui sont en lien avec la question du profilage racial, la sécurité à Montréal, voir quelles sont les solutions qu'ils aimeraient apporter par rapport à ça, puis aider, essayer de vous éclairer, vous qui êtes à la maison, pour savoir bon, pour qui voter, si ces enjeux-là, bien entendu, sont des enjeux qui sont importants pour vous. Alors, on reçoit qui, Iba?
Oui, alors on va recevoir Patrice César, qui est du Parti Courage, conseiller de ville de Côte-des-Neiges, ainsi que M. Josué Corville de Ensemble Montréal, conseiller de ville à Saint-Michel-Parc Extension. Alors, comme tu sais, Fernando, le profilage racial, c'est un sujet de l'heure, mais c'est une réalité de toujours, puis il y a eu énormément d'évolutions dans le sujet. Mm-hmm. Tout d'abord, on commence à plus en plus reconnaître, justement, son existence. Mais toi aussi, Fernando, tu as énormément contribué au sujet, parce que tu as été le premier à donner un cours sur le profilage racial à l'Université d'Ottawa cet été. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de cette expérience. C'est une première. J'imagine que c'est surtout une fierté pour toi en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'une personne qui travaille fort pour le clinique juridique de Saint-Michel. Donc, parle-nous un peu de ce cours. Comment ça a été?
Écoute, tout d'abord, ben, merci pour tes bons mots. C'est bien gentil. Il faut quand même comprendre que ce cours-là, c'est vraiment c'est un travail d'équipe, comme à peu près tout ce qu'on fait ici à la clinique juridique. L'idée nous est venue, en fait, on était moi, Rita, Edine, quelques membres, on était 5 ou 6 membres, on avait eu le contact de Mme Marie-Ève Sylvestre, qui est la doyenne de l'Université d'Ottawa, via Edine Croix-Pierre, qui à ce moment-là était coordonnatrice du comité, qui voulait nous rencontrer pour voir comment on pouvait allier nos forces à la clinique et l'université pour créer quelque chose. Et puis, Rita a lancé cette idée-là lors de cette rencontre-là de pouvoir peut-être faire une école d'été. Et on était au mois de janvier 2021. On y réfléchissait, mais je te dirais que pas le mois de janvier. On était au mois environ de... C'était pas le mois de janvier, décembre-octobre. Mmh. Donc, ça fait environ un an. Donc, on pensait à quelque chose peut-être pour 2022. On était en train de regarder les possibilités. Puis, moi et Rita, on a travaillé sur un premier plan de cours qu'on a soumis à Mme Sylvestre au mois de janvier. Et lorsqu'on lui a remis, elle a beaucoup aimé l'idée. Puis, je te dirais qu'en l'espace de quelques semaines, le tout s'est monté. Elle m'a proposé d'enseigner le cours. Puis, moi, ça me faisait très plaisir de pouvoir le faire. Surtout parce qu'à la clinique, on a déjà cette culture-là parce que on donne beaucoup de formations sur le sujet.
Pour qu'il y ait cette habitude aussi de
exactement,
de parler.
Avec les bénévoles, mais aussi avec le comité profilage racial. Puis, le cours en tant que tel a eu lieu du 15 juin au 25 juin, puis c'était vraiment une expérience.
Ouais, comment ça a été aperçu par les étudiants? Est-ce qu'on a vu une certaine volonté de comprendre le sujet?
Mais tu sais, je pense qu'il y a... Le cours a attiré un certain type d'étudiants. Donc,
qui sont déjà dans l'activiste un petit peu dans...
C'est pas ça, nécessairement ou... dans l'activiste, mais une des choses que j'ai commencé en leur disant, ben, ce cours-là, c'est pas un cours où est-ce qu'on va essayer de regarder est-ce que le profilage racial existe ou pas. On part de la prémisse que c'est un problème, que ça existe. Et on, c'était, l'angle n'était pas activiste. J'ai beaucoup insisté là-dessus. C'était un angle vraiment juridique. Mm-hmm. Parce qu'on a beaucoup de batailles juridiques à gagner pour faire en sorte que cette cause-là puisse gagner du terrain. Donc, la lutte contre le profilage. Puis, les étudiants ont été, j'ai eu un groupe vraiment merveilleux, extrêmement, comme qui participait, qui aimait le sujet.
Est-ce que tu étais un professeur exigeant, Fernando? Est-ce que tu...
Exigeant, je sais pas. Je peux te dire que le cours était difficile, les étudiants me l'ont dit. La matière était dense parce qu'on avait 10 jours pour pouvoir voir beaucoup de sujets. Puis il faut comprendre que quand on parle de profilage racial, il faut naviguer dans plusieurs domaines de droit pénal, criminel, la responsabilité civile, la responsabilité professionnelle, la déontologie plus tard, comme son droit de la personne. Donc, on navigue à travers beaucoup de domaines de droit. Puis la chose la plus difficile pour moi, c'était de trouver un angle, le right angle, pour pouvoir s'assurer que même si on travaille dans plusieurs domaines de droit différents, qu'il y a un fil conducteur qui arrive à guider tout ça. Mais tu sais, j'ai quand même eu, j'ai même certains étudiants qui ont coulé une ou deux évaluations, une évaluation qui m'ont dit, malgré qu'ils ont coulé, ils ont trouvé que c'était le meilleur cours qu'ils ont eu jusqu'à maintenant pendant leur parcours. Puis
Mais je te dirais pourquoi je pense juste de la description que tu me fais là, c'est que tu me parles de déontologie, du côté juridique. Donc, je pense qu'il y a des aspects qu'on n'apprend pas dans les bancs universitaires. Mm-hmm. Et avec ce cours-là, on a pu voir vraiment l'ensemble de la chose, non seulement juridique, mais dans la vie de tous les jours, dans la société, comment c'est perçu. Exact. Donc, ça nous forme encore plus qu'un cours magistral réduit.
Mais c'est sûr, il y avait un aspect pratique qui était plus important, mais on était aussi très dans la théorie au niveau de la jurisprudence. Mais il y a un cours particulièrement qui m'a marqué, puis je pense qu'il a marqué les étudiants, c'est celui où est-ce qu'on a vu le droit des victimes et qu'on a invité deux victimes de profilage racial à témoigner. Et je me rappelle, c'était un samedi matin et les étudiants, il y en a qui je le voyais dans leur visage, que c'était, ils le lisaient, ils m'ont entendu en parler, ils ont vu dans les nouvelles, mais d'avoir une personne live qui est en train de leur parler d'expériences qu'ils ont vécues, de pouvoir leur poser des questions. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aurais jamais compris si j'avais pas vu ça. Donc, c'est un moment très touchant pendant le cours qui m'a marqué, que je pense sûrement refaire. Puis, très content de vous dire que bon, l'Université d'Ottawa a recommandé le cours pour la session prochaine et l'Université UQAM a décidé de sauter dans l'aventure pour l'été 2022 également. Donc, notre plan à la clinique, c'est de vraiment voir ce cours-là qui soit donné dans toutes les facultés de droit au Québec. Donc, très content de voir qu'il y a des partenaires qui sont dans l'aventure.
Ben, félicitations, Fernando, et félicitations à toute l'équipe. Merci de faire ce que vous faites. Et je pense qu'on a besoin de ça dans plusieurs aspects, même, par exemple, dans les droits des autochtones, de vraiment entendre la voix des victimes. Donc, merci de le faire. Et on souhaite que ce cours-là soit offert dans toutes les universités, pourquoi pas même au cégep éventuellement, et que le podcast, justement, continue à contribuer à cette discussion. Sans plus tarder, Fernando, on va recevoir notre premier invité dans quelques instants.
Merci présenté beaucoup. Par la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Alors, notre premier invité est M. Patrice César, donc du parti Courage. Il est en ce moment conseiller de ville de Côte-des-Neiges, ancien avocat. Il dit avoir quitté la profession parce qu'il y avait un manque de diversité. Aujourd'hui, il se présente encore une fois pour être candidat au conseil de ville dans le district de Côte-des-Neiges. Monsieur Patrice César, je laisse l'honneur à mon collègue Fernando Belton pour commencer.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Comment tu te sens par rapport à la campagne qui achève? J'imagine que c'est ta première campagne.
C'est ma première campagne, donc je ne suis pas encore élu, mais c'est une question de temps.
Puis, tu trouves ça comment?
Écoute, c'est des hauts et des bas. Mm-hmm. C'est vraiment... c'est pour la première fois, j'ai l'impression de ne pas travailler. Donc, j'aime ça.
C'est-à-dire?
Dans le sens où, genre, tu sais, le but dans la vie, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, qui nous passionne. Mm-hmm. Et lorsque tu trouves ça, mais tu travailles plus jamais. Mm-hmm. Fait que là, j'ai l'impression d'être dans ma voie parce que ça me permet de revenir dans mon quartier, travailler dans mon quartier, de rendre.
En parlant de Côte-des-Neiges.
Exactement. Mm-hmm. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Donc là, j'ai la possibilité d'agir beaucoup plus pour faire du changement dans ce quartier-là. Tu sais. Puis je pense que tu peux savoir c'est quoi en tant qu'avocat. Mm-hmm. On travaille pour des clients. Des fois, c'est pas toujours des clients qu'on aurait voulu avoir. Des fois, on se demande c'est quoi la valeur qu'on amène à la société. Tu sais. Puis là, au moins, je sais que la valeur que j'amène, ben, c'est aux gens qui m'ont élevé, tu sais, dans le quartier où j'ai grandi. Donc, je suis sur la bonne voie.
Super, super. Mais commençons tout de suite, si tu veux bien. Patrick, on va se tutoyer juste pour rendre ça un peu plus cordial. Tu sais qu'il y a un rapport, là, le rapport Harmonie qui a été rendu en août 2019, qui emmène des constats qui sont quand même frappants, notamment le fait que les personnes noires, les hommes noirs précisément, sont 4 à 5 fois plus susceptibles de se faire intercepter que les personnes blanches. Donc, c'est une problématique qu'on a à Montréal, la question du profilage racial. Ton parti, donc le Parti Courage, l'équipe de Sue Montgomery, propose quoi pour enrayer ce problème-là?
Nous, on a trois mesures phares par rapport au profilage racial, puis toute la question de la gestion de la police. La première mesure, c'est qu'on veut abroger tous les règlements de contrôle social qui ciblent les personnes marginalisées. Mm-hmm. Là, on parle de flânage, de ne pas pouvoir être dans un parc après 11 heures. Ce que ça permet, c'est de retirer une capacité à la police aussi de faire des interpellations, de faire des arrestations. Alors que si tu es dans la rue, si tu es un jeune, justement, un jeune noir, dans la rue après une certaine heure, mais c'est peut-être qu'il y a des problèmes à la maison. C'est peut-être que il y a des situations où tu ne sens pas à l'aise. Donc,
peut-être que
tu
as le droit aussi.
Absolument, c'est ça. Donc, nous, on pense que c'est... ça ne veut pas dire que tu pourras continuer à faire du bruit après une certaine heure. Là, on parle de pollution, de vivre ensemble, de pollution donc, sonore. Tu sais. Donc, ça, on pense que si tu es dans un espace public après une certaine heure, ben, ça ne devrait pas être une raison pour te faire arrêter. Et un jeune, une personne autochtone, a beaucoup plus de chances de se faire interpeller. Puis ça donne des munitions un peu, si tu veux, à la police pour faire des interpellations.
Une autre... Si tu permets sur cette question-là, je sais que les... Moi, j'ai beaucoup critiqué tout ce qui a rapport au règlement sur les incivilités là, qui a été adopté au début des années 2000 par la Ville de Montréal. Cependant, comment bien construire le vivre ensemble si justement on fait disparaître ces règles-là, qui, par exemple, je donne un exemple simple, une des règles d'incivilité, c'est de ne pas, par exemple, avoir le droit de pisser dans la rue, d'uriner, désolé mon terme, d'uriner dans un espace public. Ben, le vivre ensemble est quand même important. Comment on fait pour concilier les deux?
C'est bien. Tu sais, je viens d'un quartier où, si tu es déjà promené là, si tu connais des gens de Côte-de-Neige, ils vont dire que nous, on est un gros village. On a encore une mentalité de village. Et une des choses les plus importantes en Côte-des-Neiges, parce qu'on est tellement différents, on a tellement de perspectives différentes, on vient de milieux, d'expériences différentes, c'est la bienveillance. Donc, chacun est le gardien de l'autre. On a d'autres modes de contrôle social pour éviter des comportements qui sont désuets. On l'a vu avec la pandémie, comment genre, la pression sociale est capable de faire beaucoup. Puis lorsque le gouvernement essaie de mettre en place des règles, des lois qui ne fitent pas avec l'ADN d'un quartier ou bien d'une place, mais ça crée plus de problèmes que ça en règle. Donc, on pense que notre communauté est capable de s'auto-gérer avec les normes sociales qui sont en place. On n'a pas besoin de donner plus de raisons pour la police de faire des interpellations, des interventions qui n'ont pas de sens et qui ciblent surtout des jeunes, ciblent surtout des groupes marginalisés.
Mmh. Tu parlais de trois engagements. C'est quoi les deux derniers?
Deux derniers. Actuellement, bon, tu sais, s'il y a un problème, une plainte, ben là, ça va à la commission d'déontologie qui est contrôlée par la police aussi. Nous, on veut avoir un contrôle de cette commission-là par des civils, un peu comme ce qu'ils font à Toronto. C'est une mesure qu'on a mis en place dans notre plateforme pour que, comme à Toronto, on est un groupe, s'il y a une plainte en déontologie ou une plainte d'un civil, ben, ce soit un groupe composé qui soit dirigé par un élu, un conseiller de ville, avec des experts, des avocats et aussi des policiers pour traiter les plaintes. La police qui police la police, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut se rappeler aussi que la police, c'est un organisme paramilitaire. T'sais. Donc, la seule différence avec l'armée, c'est qu'ils ont plus de marge de manœuvre dans les actions. Puis, la direction peut mettre en place des directives. Par exemple, OK, on ne fait plus de profilage racial, c'est fini. Mais avant que ça trickle down, que ça arrive en bas, mais il y a tellement de...
Mais vous êtes quand même conscient qu'il y a des pouvoirs à rapatrier de la part de Québec. Est-ce qu'il y a un engagement de la part du gouvernement québécois ou une volonté là, de vouloir donner certains de ces pouvoirs-là à la ville?
Écoute,
pour changer la loi sur la police?
En même temps, le conseil de ville de Montréal est aussi celui, un peu comme un CA, qui, sans donner des directives, genre tu peux pas arrêter telle personne, supervise aussi le travail de la police, dans la mesure où genre nous on vote leur budget, puis on a une marge de manœuvre pour donner des directions. Là, le conseil de ville peut émettre certaines directives et dire X, Y, Z.
Mais il ne peut pas changer la loi sur la police pour donner des pouvoirs additionnels peut-être
non.
au vote du fonctionnaire. Parce que vous proposez un changement de structure, mais vous n'avez pas les pouvoirs législatifs pour pouvoir
non, les appliquer. Non, mais en même temps, on peut faire de la pression à Québec, puis on peut se mettre en place, puis s'il y a d'autres villes aussi qui voient les mêmes choses.
Il y a la question de la politique des interpellations qui a été votée récemment par la ville de Montréal, qui en fait est venue en quelque sorte pour venir baliser la façon dont les interventions avaient lieu, notamment en disant ben, à partir de maintenant, les interpellations doivent être faites sur des faits observables, certains policiers doivent colliger des données par rapport aux personnes qu'ils interpellent. Qu'est-ce que tu penses de cette politique qui a été votée par le parti de Valérie Plante?
Mais écoute, faut se rappeler que c'est quoi des interpellations aussi. Mm-hmm. Les interpellations, c'est juste un policier qui vient te voir dans la rue puis qui te dit comment ça va. Là, actuellement, on est dans une situation où, genre, puisqu'il y a un manque de confiance entre le corps de police et la population, et que tout le monde est conscient qu'il y a du racisme systémique, on est dans une situation où, de plus en plus, tout le monde se sent un peu mal à l'aise quand on se fait interpeller. Toi, t'es avocat, moi, je suis avocat. Si je me fais interpeller par la police, je vais avoir un sentiment de mal à l'aise à cause du fait que je sois un homme noir. J'ai toujours à avoir ce chapeau-là, puis je dois vivre avec cette situation-là. Donc, ma position, si tu me rappelles ta question, c'est quoi?
Mais c'est au niveau de la politique des interpellations qui a été votée par la ville de Montréal, est-ce que tu penses que c'est une bonne politique? Ou est-ce qu'au niveau de votre parti, vous auriez fait quelque chose de différent par rapport à ça? Ce que je veux dire, c'est que je prends un exemple. La politique prévoit, par exemple, que les interpellations doivent être faites sur des faits observables. Mm-hmm. Prévoit par exemple qu'un policier doit colliger des données par rapport aux gens qui sont interceptés. Puis pour bien te mettre en contexte, c'était une politique qui était là pour qui venait en fait pour en réponse au rapport Harmonie en quelque sorte, mm-hmm. par rapport aux interpellations. Ma question, c'est juste de voir de votre côté, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant
non,
comme mesure?
Non, excuse-moi, là je te catch. Nous, on pense que c'est un pansement, que on a déjà une plaie béante, là. Genre, le problème, c'est pas de donner plus de paperasserie à la police. La solution, c'est pas de donner plus de paperasserie à la police. La solution, c'est de faire en sorte que la police ressemble plus aux gens qui policent. Mm-hmm. Dans la mesure où, genre, actuellement, on est dans une situation où seulement 16% des policiers habitent sur l'île de Montréal, dans la ville de Montréal. Qui fait en sorte qu'on a une force de police qui sort de l'extérieur, des banlieues, puis qui vient policier. Et on sait tous que lorsque la police habite dans les quartiers où ils travaillent, ça crée au moins une situation de sécurité des gens, le taux de criminalité diminue. Donc,
par la présence policière?
Non, juste le fait que les interactions avec les personnes qui policent sont beaucoup plus humaines. Okay. Là, actuellement, on a une force de police qui rentre dans Montréal. Donc, si tu me demandes si cette mesure-là est suffisante, je pense que c'est juste un pansement qui cache un vrai problème qui est, la police n'habite pas sur l'île, qui fait en sorte qu'ils viennent travailler et ils ont une autre mentalité, et deux, la police ne ressemble pas aux gens qui policent. Tu connais très bien les problèmes de recrutement dans les groupes de minorités visibles et le fait que on a une force de police qui ne ressemble pas aux individus, aux Montréalais normaux. T'sais.
Parlons des Montréalais. Beaucoup des Montréalais ne se sentent pas en sécurité à cause des problèmes de prolifération d'armes qu'on a un petit peu partout sur l'île. Est-ce que pour ton parti, plus de policiers, c'est plus de sécurité? Est-ce qu'on devrait justement, on parle de 500 policiers, 500 ou 250, dépendant des partis, là, mais il y a un manque de policiers qui est quand même important. Est-ce que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir régler les problèmes de sécurité dans la ville?
Le problème de sécurité, se limite pas juste au fait qu'il y a plus d'armes dans la ville. Il faut se mettre dans un contexte particulier où là, on est tous dans une situation de crise, on est tous dans une situation de panique à cause de la crise sanitaire qu'on vit, qui crée une atmosphère d'insécurité particulière. Donc, actuellement, on est tous un peu traumatisés, puis on voit la police comme une espèce de force qui vient aussi et qui nous polissent, mais en même temps, il y a des humains par rapport à ça qui ont des problèmes de santé mentale. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas simplement le fait de mettre plus de policiers, c'est de faire en sorte que les policiers qu'on a actuellement soient plus en contact et qu'il y ait des relations beaucoup plus humaines avec les individus.
Mais je t'arrête là-dessus. Ce que ça peut donner comme l'image que les gens peuvent donner, on a des personnes qui sont armées, là, qui ont des armes, ouais, qui tirent en plein jour.
Ouais.
Est-ce que c'est ça qu'on veut, une police qui soit plus en contact avec ce type de personnes-là, ou est-ce qu'on ne voudrait pas plus de présence policière ou de... Je te pose la question, là.
Ma réponse, c'est que...
Je réfléchis pour notre citoyen à la maison.
Oui, non. Ma réponse, c'est que, regarde, nous, on est dans une situation à Côte-des-Neiges-NDG où on s'est fait enlever un poste de police de quartier.
Mm-hmm.
Et les gens dans Côte-des-Neiges-NDG, surtout dans NDG, veulent avoir ce poste de police là, de quartier, pour avoir une police de proximité. S'ils ont des problèmes, au moins, ils se sentent en sécurité. OK? Ça ne veut pas dire nécessairement avoir plus de policiers, c'est avoir un accès beaucoup plus facile à ce corps-là. Personnellement, mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter de croire que plus de police, plus d'armes va pouvoir combattre plus d'armes aussi. On est dans une situation de crise. Il faut qu'on se calme et qu'on se dise, genre, actuellement, pour régler ce problème-là, il faut qu'on rétablisse le lien de confiance entre la population et la police. La police ne pourra pas faire son travail si elle ne peut pas faire d'enquête, si lors de ses interpellations... pour avoir des informations, pour pouvoir trouver des personnes qui commettent des crimes, mais ils n'ont pas la confiance du public. C'est la base même du travail de policier.
OK.
Merci beaucoup. Et, on parle de profilage racial, mais le profilage racial n'est pas seulement en présence justement de la police. Là, on va parler de racisme systémique surtout. On va parler de racisme systémique et d'emploi. Donc, plusieurs statistiques démontrent justement que des personnes racisées n'ont pas accès aux postes de haute décision, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que votre parti propose au-delà de l'accès à l'emploi au sein de la ville de Montréal pour remédier à ces contraintes-là? Parce que c'est quand même une réalité que plusieurs jeunes... Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'ADN de la ville, notamment la ville de Montréal, qui est remplie de ces jeunes de diversité. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution?
Nous, on a une politique où on essaie de développer une économie locale en faisant en sorte que notre, ce qu'on appelle le procurement, donc toutes les verres d'eau, les choses qu'on doit payer à la ville, on s'assure que ce soit genre face à face, rouler l'économie locale, puis qu'on s'assure que nous, communautés, puissent bénéficier des services qu'on donne. L'autre truc que nous, on a mis en place, c'est notre mairesse décidé de faire en sorte que son équipe, sur quoi elle a un contrôle, soit issue de la diversité. On essaie de pousser la fonction publique aussi à faire la même chose. Mais il faut voir aussi qu'un élu a une certaine limite d'action dans la mesure où nous, on est un CA, on ne peut pas dire à notre DG, il va falloir que tu engages telle personne, parce que c'est un pouvoir de gérance, il doit avoir une certaine indépendance aussi. Mais on essaie de pousser à mettre en place des politiques qui font en sorte que on veut avoir certains quotas et on veut pousser ces quotas-là. L'autre truc, c'est regarder notre équipe. Nous, on a une équipe composée pour Côte-des-Neiges de un homme noir, une femme philippine. Dans la mesure où on représente beaucoup plus la diversité du quartier et on veut lancer le message que ça commence par le top. Donc, les élus sont diversifiés, ressemblent au quartier qu'ils administrent. En même temps, on pousse aussi l'économie locale en essayant de développer de la job pour nos commerçants locaux et envoyer un message très clair à notre fonction publique qu'il va falloir que aussi ils engagent dans la communauté.
Des jeunes racisés. En parlant de jeunes racisés, il faut aussi aborder le thème des femmes, parce que même si 40% des femmes occupent des positions cadres dans la ville, ben seulement 2% d'entre elles font partie des minorités visibles. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour favoriser l'emploi des femmes, notamment à la ville de Montréal?
Comme de la même manière où on essaie de pousser beaucoup plus de personnes de couleur, de personnes racisées à avoir des postes de direction, on essaie de pousser beaucoup plus les femmes. Je suis dans un parti où je suis une minorité, non seulement visible, mais je suis le seul homme avec cinq femmes qui se présentent. Et ces femmes-là ont des visions de féministes assez fortes. Et elles-mêmes, sans nécessairement avoir mis des, 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 des quotas particuliers dans, ou bien des quotas particuliers dans la plateforme, savent déjà que l'entourage et l'énergie qui essaie de développer, c'est de pousser beaucoup plus de femmes à faire des changements. Regardez ce Montgomery qui est obligé de se battre pour prouver son intégrité. Quel message ça envoie à nos filles aussi? Dans la mesure où on a une femme qui essaie de développer un poste de pouvoir, et même avant les élections, on l'empêche, on essaie de lui dire non, vous êtes indigne d'un poste de mairesse d'arrondissement. Mm-hmm. Donc il faut voir aussi qu'on est dans un système qui est contrôlé par des hommes blancs, et juste le fait d'avoir une représentation majoritairement de femmes dans un conseil d'arrondissement, ça envoie un message clair et ça change beaucoup.
Donc, vous parlez de représentativité en tant que première étape, mais on espère qu'on aura vraiment à faire pousser justement ces choses-là, surtout dans la gouvernance. Maintenant, un petit peu un dernier thème. Tout à l'heure, Maître Belton a parlé du rapport Harmonie, mais là, j'aimerais qu'on parle de la commission Vien qui est vraiment venue mettre le terme systémique quand on parle de discrimination, notamment face aux communautés autochtones. Mm-hmm. Pensez-vous, de manière générale et également en rapport avec les communautés autochtones, que mettre justement le mot systémique va venir aider ou outiller l'administration de Montréal pour contrer les problèmes de racisme systémique et de profilage racial?
Absolument. Tout processus de réconciliation, ça commence par nommer les choses, mm-hmm, et admettre lorsqu'on s'est trompé. Surtout lorsqu'on est dans une position de pouvoir, c'est très difficile d'admettre qu'on a eu tort ou qu'on a toujours été dans une tangente qui était la mauvaise. Donc, moi, j'invite le plus d'élus possible, que ce soit au palier municipal, provincial et fédéral, à reconnaître le racisme systémique comme une première étape et à établir vraiment un dialogue constructif avec les Premières Nations.
D'accord. Ben, on vous remercie beaucoup. Fernando, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Ben, merci beaucoup de ta présence. Puis, bon succès pour tes élections.
Peut-être une dernière chose. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui hésitent souvent à aller voter en général, pas nécessairement pour ton parti, mais en général aux élections municipales et de l'importance d'aller voter, surtout quand des sujets comme ceux-là qu'on aborde aujourd'hui nous touchent?
Nous, on a écrit notre plateforme qu'on essaie de militer pour que le vote soit au municipal diminué à 16 ans, parce qu'on croit que lorsque ce soit juste des adultes qui prennent des décisions pour des jeunes, c'est une vision paternaliste. Ce que j'envoie comme message à n'importe quel jeune qui vient d'avoir 18 ans, qui veut voter pour la première fois, c'est la première étape, selon moi, pour un engagement citoyen. Et je sais que nos élus n'ont pas été à la hauteur jusqu'à présent, dans la mesure où ils nous ont trop longtemps promis plein de choses et pas assez livré. Mais ça commence par établir ce dialogue-là. Donc, aller voter, c'est un acte citoyen, mais ça ne se limite pas à ça. Il faut s'engager dans les causes qu'on croit. Il faut aussi s'engager dans les partis, si on veut. Apprendre à débattre, militer, tout ça, c'est important. Mais le vote est là où se passe le vrai pouvoir. Puis, je veux juste finir sur un point. Pendant la pandémie, lorsque tout a commencé à tomber, on s'est tous tournés vers une seule instance. On pensait que les entreprises allaient nous sauver. On pensait que les OBNL, les NGO allaient nous sauver. C'est pas vrai. On s'est tous tournés vers nos politiciens, vers nos dirigeants. C'est là où la force du politique montre que le politique met la table pour que tout puisse exister. Donc, n'importe jeune doit avoir une vision, doit pouvoir mettre sa voix, puis parler puis dire qui devrait les gouverner.
On vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Fernando. Et j'aimerais également remercier nos partenaires, encore une fois, la Ville de Montréal, mais également les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci également à Néolab, notre coordonnatrice Nina, et avec nous, notre avocat coordinateur, donc Maître Adamo.
Merci.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Super. Alors, commençons tout de suite. On a avec nous M. José Corville. Bon matin. Bonsoir, plutôt.
Bonsoir, Maître Fernando, et bonsoir, Ida. Et on dit bonsoir aux téléspectateurs, aux internautes qui assistent à cette émission.
Comment vous vous sentez? Je sais que ben, la campagne, ça doit être quand même éreintant comme, comme rythme. Comment, ouais. Comment ça se passe pour le dernier droit?
Donc, ça va bien. Évidemment, on commence tôt le matin, on finit tard le soir. Mais c'est quand même très, très important de rencontrer nos citoyens sur le terrain et surtout d'être à l'écoute.
Mmh. Vous êtes conseiller de ville pour l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, un arrondissement qui a des problèmes de profilage racial quand même qui sont importants. Vous savez déjà, on en a largement parlé dans cette émission-là, mais dans les médias, cette statistique qui ressort du rapport Harmonie concernant le fait que 4 à 5 fois, les personnes noires sont 4 à 5 fois plus susceptibles de se faire intercepter par la police que les personnes blanches. C'est un problème qui est quand même assez important. Votre parti politique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des solutions qu'il propose pour enrayer la problématique du profilage racial?
Donc, tout d'abord, il y avait eu une politique sur le profilage que la police avait présentée. Et quand ce document est apparu, Ensemble Montréal avait certes applaudi, mais pour nous, le document manquait de mordant. Et à l'époque, Projet Montréal avait pas vu les choses de la même façon que nous. Mm-hmm. Mais au fil du temps, nous, on a sorti des points particuliers, puis je vais vous en donner. C'est que pour nous, il faut que les fiches d'interpellation soient automatiques. Il fallait réduire la possibilité de choix discrétionnaire des policiers pour les interpellations et il est basé sur un besoin réel, inclure les sanctions dans la politique, rajouter les termes profilage racial pour les bannir explicitement, consigne pour les modalités d'enregistrement et de l'appartenance raciale perçue, suivie de la plaque de l'application de la politique. Mais toutefois, et au niveau de la commission sur la sécurité publique, ils ont adopté toutes nos suggestions. Et même au niveau du conseil municipal, ça a été déposé. Maintenant, et c'est au SPVM, donc disons comité exécutif, d'accompagner le SPVM dans cette démarche pour qu'on puisse atténuer cette problématique. Dire que le profilage racial a priori pour certains n'existe pas, c'est une aberration.
La seule chose qui peut être qui me vient à l'esprit, c'est le fait que beaucoup des solutions, parmi celles que vous venez de présenter, remet la solution du profilage racial entre les mains des policiers. Dans la mesure où est-ce que ce sont les policiers de manière générale qui profilent, comment on peut les faire confiance pour être, tandis qu'on sait que certains d'entre eux sont le problème, comment peut-on les faire confiance pour également être la solution? Je comprends qu'on peut dire qu'ils font partie de la solution, mais remettre en fait l'exécution des solutions entre les mains de ceux qui perpétuent cette problématique-là, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu problématique?
Donc pour moi, il y a certaines étapes, il y a certains éléments à mettre en lumière. D'abord, tablir sur la formation. Il faut dire également que la police dépend de la ville et qui dit ville dit comité exécutif. Donc moi je pense, si on va au niveau de la formation, si on va à cette sensibilisation de ces policiers, malheureusement, plusieurs d'entre eux n'habitent pas Montréal, ne sont pas conscients de certains biais. Il y a des biais qui sont inconscients. Donc, moi, donc, Maître Belton, je pense que un accompagnement d'un comité exécutif
respectueusement, le comité exécutif n'est pas sur le terrain.
Oui, mais dans notre plateforme, on prévoit d'inclure le chef de la police dans la machine municipale. Donc, moi, je pense qu'il faut un certain accompagnement, et puis aussi, il faut des garde-fous qui vont nous permettre d'avoir des résultats probants et tangibles, et non avoir des paroles en l'air.
Mmh. On a un problème qui est quand même important à Saint-Michel. Saint-Michel et à Montréal de manière générale, il y a une prolifération au niveau des armes à feu. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce que j'entends de la part de tout parti confondu, incluant le vôtre, concernant les solutions qu'on veut amener par rapport à cette problématique-là. Quand je parle des inquiétudes que je peux avoir, elles sont liées avec le profilage, bien entendu. Est-ce que vous pensez estimer, est-ce que votre parti estime que plus de policiers, c'est l'équivalent de plus de sécurité pour les citoyens?
Donc, moi, je pense qu'il est un fait évident pour tout le monde que la sécurité est une problématique. Présentement, il nous manque 250 policiers. Certes, il faut combler ces postes et tout en donnant les moyens à la police, il faut les accompagner.
Est-ce que les policiers veulent être accompagnés? Est-ce qu'ils vont être d'accord d'être accompagnés?
Bon, écoutez, dans le sens que s'ils dépendent de l'appareil municipal, ils travaillent avec la ville, donc je pense que le comité exécutif doit donner des directives.
Donc, mais c'est déjà le cas, Monsieur Corville.
Bon, mais je pense que le travail n'est pas fait convenablement. Il y a lieu d'améliorer. Mm-hmm. Donc, moi, je dirais que, à part ce volet-là d'accompagner la police, de combler les postes, mais il faut également accompagner tous les organismes jeunesse. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec plusieurs organismes jeunesse et certains me disent présentement qu'il manque de ressources. Moi, je pense qu'il faut leur donner des ressources, accompagner dans tout le volet transformation qu'on veut avoir au niveau de la police. Et donc, avec ces éléments-là, on peut arriver à contrôler cette situation problématique explosive que l'on vit à Montréal présentement. Mais la solution n'existe pas. Donc, comme dit certains partis, dans le définancement de la police...
Je vais peut-être reformuler ma question pour vous aider. Récemment, je suis allé jouer au basket au parc Jean-François Perrault avec ma fille de 7 ans. Et pendant cette période d'environ 30 minutes, à peu près une heure, j'ai joué pendant une heure. Et puis, à trois reprises, il y avait des patrouilles de police qui ont patrouillé le parc, des autos de police qui étaient dans les environs. Puis à un certain moment, je me pose la question, je me dis, pourquoi il y a autant de policiers qui se trouvent dans un parc? C'était un samedi, ou est-ce qu'il y a seulement des familles qui sont en train de jouer? Puis je fais vraiment le tour du parc, puis il n'y a rien de particulier. Moi, ce que je veux savoir, c'est pour vous, comme parti politique, est-ce que c'est ça l'image de la sécurité qu'on veut? C'est-à-dire des policiers qui, en fait, deviennent omniprésents dans notre sphère? Où est-ce qu'on devrait avoir des espaces qui sont de détente? Est-ce que c'est ça qui emmène plus de sécurité par rapport au problème des armes? Puis je pose la question parce que vous sentez déjà dans la question que je pose que personnellement, je trouve que c'est problématique de penser que tous les problèmes en termes de criminalité se résolvent par plus de policiers.
Donc, moi, je pense que le problème de la criminalité, parler de sécurité, c'est un problème de plusieurs acteurs qui doivent se mettre ensemble. Est-ce que le fait que la police soit beaucoup plus présente, est-ce que ça peut avoir un effet? Évidemment. Est-ce que c'est la seule solution? Du tout pas. Moi, je pense que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau de tous les paliers, il faut s'entendre pour qu'on puisse arriver à une solution au niveau de la sécurité de notre belle ville Montréal.
Puis, je me permets une dernière question sur le sujet. Vous parlez des acteurs communautaires. J'entends plusieurs politiciens parler du fait que les acteurs communautaires doivent être impliqués, mais personne ne nous dit comment. Comment voyez-vous le rôle, justement, des acteurs communautaires dans la solution qui viendrait, en fait, corriger le problème qu'on a au niveau de la sécurité dans la ville?
Pour quelqu'un qui est sur le terrain, je vais prendre des exemples. On a les Monarques, basket dans Saint-Michel. Mm-hmm. Évidemment, quand on encadre nos jeunes dans un environnement particulier, ça les sécurise et cela les empêche d'aller ailleurs. Moi, j'ai été bibliothécaire au Collège Arnoussé, où j'ai vu plusieurs jeunes issus de nos communautés. Puis là, ces jeunes, donc tu sais bien, ces jeunes jouaient au domino. Je leur ai parlé. Ils disaient, écoutez, monsieur, cela ne sert de rien. Évidemment, nous, on est des parents pauvres et on va rester toujours des parents pauvres. On va être toujours discriminés. On va être toujours profilés. Donc, cette idée de, il faut changer les paramètres. Parce que l'autre, par exemple, moi, un jeune m'a dit, écoutez, présentement, il y avait des difficultés parce que lui était un joueur de basket. qu'on puisse jouer avec les monarques dans un environnement sécurisé. Mais il n'y avait pas de moyens. Quand il n'y a pas de moyens, il m'a dit, je suis dehors. Et quand on est dehors, tout peut arriver. Moi, je pense en termes d'encadrement. Et puis aussi, il faut penser, la sécurité doit avoir des avenues plurielles. Dans le sens, oui, il y a la ville, oui, il y a la police, oui, il y a les organismes, oui, il y a les familles. La sécurité nous préoccupe tous. Ce n'est pas l'appât d'une personne ou bien d'un groupe en particulier.
Justement, M. Kirby, vous parlez de plusieurs acteurs de la société justement pour éradiquer ce problème de profilage racial. J'aimerais qu'on aborde un petit peu le thème de l'emploi. Parce que le profilage racial, et je pense que vous pouvez nous parler également de vos expériences personnelles, ne se rallie pas uniquement au rapport policier avec les citoyens, mais également dans l'emploi. Donc, plusieurs statistiques démontrent, par exemple, que les personnes racisées ne sont pas admises dans les postes de haute direction et des sphères décisionnelles municipales. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau municipal, justement, pour contrer cette problématique et avoir plus de gens racisés dans des postes décisionnels?
Donc, a priori, il faut dire que, par exemple, au niveau de la ville de Montréal, 19 arrondissements, il n'y a aucun directeur général d'arrondissement qui vient des minorités. Pour moi, c'est pas acceptable. On est en 2021. Heureusement, on a eu le rapport de l'OCPM qui a fait émerger, en tout cas, c'était déjà là déjà. On parle maintenant de racisme systémique au niveau de la ville et il y a certaines étapes. Alors, il y a un commissaire. Mais la situation n'est pas encore beau fixe. Il faut changer les paramètres. Et puis, quand on parle de compétences, les communautés culturelles sont très compétentes.
Et vous, en tant que conseiller de ville, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, être dans une position justement de conseiller de ville?
Ah, est-ce évidemment.
Est-ce que vous avez vécu des...
Oui, parce que moi, j'essaie de faire bouger les choses. Par exemple, moi, j'ai fait mes études ici. Je suis un produit du système. Et puis, moi, j'avais pu travailler dans les bibliothèques de la ville de Montréal. J'ai reçu des étudiants issus de la majorité donc en stage. Et mes étudiants, en tout cas, moi, je les ai posé la question. Tu reçois un étudiant en stage et puis, quelques mois après, il est chef de service en biblio. Je me dis, ben, écoute, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a dit, ben, écoute, t'as le mauvais nom.
Wow.
Donc, c'était dans le temps. Mais j'espère que cela ne se... Donc, qu'il va y avoir des changements. Moi, je pousse. Je pousse pour avoir des changements. Je pose des questions. Je demande, par exemple, que, premièrement, les postes soient ouverts à l'interne et à l'externe, que les groupes des communautés culturelles puissent avoir de l'information. Comme vous savez, l'information, c'est le pouvoir. Souvent, tu peux voir un poste passer, puis c'est deux jours avant la fin que vous qui êtes dans une autre communauté, que vous voyez le poste. Il faut qu'il y ait une certaine égalité dans le poste. Et également, donc au niveau de la ville, il faut qu'il y ait une balance des choses, une représentativité de tout le tissu montréalais.
Oui, en parlant du tissu montréalais, Monsieur Corvée, tout à l'heure, mon collègue Fernando a parlé du rapport Harmonie, mais là, j'ai envie de parler du rapport de la commission Vient, qui est venu mettre le mot systémique quand on parle de discrimination, notamment avec les rapports que vivent les communautés autochtones, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils font également partie, justement, de ce problème que vivent les communautés racisées. Donc, êtes-vous d'accord, justement, du fait que le mot racisme systémique et la discrimination systémique a été représenté comme cela? Est-ce que cela, justement, une telle reconnaissance, est-ce qu'elle va obliger la prochaine administration de doter d'outils nécessaires pour éradiquer le problème?
Tout à fait. Donc, le racisme systémique, c'est un fait, c'est une problématique qui existe. On va pas rester sur une problématique de mots, mais moi qui fais partie de cette communauté racisée.
Le gouvernement ne le reconnaît pas, voilà.
Ouais. Donc le gouvernement, le GO ne le reconnaît pas. L'administration municipale reconnaît la situation. Notre formation politique reconnaît la situation. Et moi, je pense que, en tout cas, malheureusement, quand on reconnaît pas une problématique, on va pas prendre des mesures pour éradiquer. Toutefois, nous croyons et nous savons que le racisme systémique existe. Moi, je ne parle pas de livre, là. Ce n'est pas quelque chose que je lis, je le vis. Et dire que cela n'existe pas, c'est... Bah, en tout cas, c'est vraiment être dans un autre univers. Moi, je pense comme l'administration, si notre parti est monté au pouvoir, il va y avoir des faits ou bien des moyens tangibles pour voir que est-ce qu'il y a changement. Présentement, il y a aucun directeur. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de programmation pour permettre l'équilibre. Présentement, les communautés ne sont pas représentées dans au niveau des directions. Donc, surtout au niveau de la direction générale de la ville de Montréal.
D'accord, ben on vous remercie énormément, M. Corbeil, de votre temps et on vous souhaite bonne chance. Merci de nous avoir éclairé sur plusieurs enjeux.
Merci, donc c'est un plaisir de participer avec vous dans ce podcast dans Saint-Michel, le meilleur des quartiers. Merci.
Présenté par beaucoup. La Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et garets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes tes distances.
Vous connaissez la chanson. Célébrez avec vos proches, mais évitez les accolades et les embrassades. Et gardez un mètre de distance. Un message du gouvernement du Québec.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
We're going to call you CKUT. You've got this frequency, 98.3. That frequency is what you're picking up when you tune that radio.
Very impressive.
You can sit on the moon and look like you pick up CKUT, clear as a bell.
Fascinating. Your analysis seems logical.
CKUT is on the air.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
The following is a previously broadcast program.
From the Advocate magazine, in partnership with GLAAD, this is LGBTQ&A. I'm Jeffrey Masters, and on the podcast recently, we've been talking a lot about HIV with people like Peter Staley, Sarah Schulman, Anne Northrup. And today, I wanted to continue and expand on those conversations by bringing you an episode of Making Gay History featuring Larry Kramer. Making Gay History, if you don't know, is an incredible podcast hosted